Bonjour et bienvenue au panorama économique de ce week-end à la présentation Agathe Mpona Elima et Nicole Ngaka. Au menu de votre rétrospective, nous revenons sur la liste de l'autorité de l'aviation civile congolaise publiée cette semaine, une liste de 29 avions immatriculés et immobilisés au 15 mai 2012. Également dans ce panorama, l'intervention de Mgr Jomo Lola, évêque de Tumbe, devant le congrès américain. Devant la représentation américaine, le prélat catholique est parti défendre les intérêts miniers de la RDC. Nous y reviendrons avec détails, commentaires et analyses. Dans notre rubrique matière première, nous irons en province orientale où à Bounia, des dépôts de bois ont été scellés par manque de documents conformes. Autant de sujets économiques traités cette semaine. Pour commentaires et analyses, nous recevons dans cette émission le commandant Ilunga, il est directeur des opérations des lignes aériennes congolaises LAC. Bonjour commandant.
Bonjour.
Nous recevons également Franck Fomba, expert dans les secteurs des mines, fondateur de la revue Mining News Magazine. Bonjour M. Fomba.
Bonjour Agathe.
Eric Sidiakala assure la partie technique de cette émission. Chers auditeurs, merci de nous suivre.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine revient, je vous l'ai dit en titre, sur l'autorité de l'aviation civile qui a publié mardi une liste des avions immatriculés immobilisés en date du 15 mai 2012, Nicolas Gaka.
Cette liste de 29 avions appartenant à une vingtaine de compagnies reprend entre autres 4 avions de la compagnie Fly Congo et 3 avions de l'entreprise CA. Selon l'autorité de l'aviation civile, ces avions n'ont pas leurs documents techniques validés après expertise. Nadine Poulain-Simba.
L'autorité de l'aviation civile affirme que c'est pour elle une façon d'assurer la visibilité du travail qui est fait dans le secteur aérien. Clarisse Ngombo-Kalala, chargée de communication à l'autorité de l'aviation civile.
Le gouvernement congolais a demandé à l'autorité de l'aviation civile d'assurer la visibilité du travail qui est fait dans son secteur. Cette liste permet à tout le public de connaître les opérateurs qui ont leurs documents techniques validés après l'expertise de l'AAC et ceux qui n'ont pas leurs documents et qui sont encore en train d'attendre. Et c'est pour inciter les opérateurs qui évoluent dans le secteur aérien congolais à maintenir les efforts pour assurer la sécurité aérienne. Sur l'entête, il est dit avions immatriculés, immobilisés, en date du 15, que ces avions ne peuvent plus bouger pour ne plus desservir les Congolais.
Fly Congo, une des dernières nées du secteur, voit 2 MD-82, un Boeing 767 et un HS-125 sous le sol. Selon Marc Pajot, DG de cette entreprise, il n'y a à ce sujet aucune inquiétude à avoir.
Pas un problème. Pour nos avions, je crois qu'il doit y avoir 2 MD-82. Il y en a un qui est déjà en Afrique du Sud, qui est le 9 Québec Charlie Oscar Zulu. Lui est en train de faire son grand entretien, donc lui n'a pas de CDN, c'est normal. Il va recevoir son CDN dans une semaine, je pense, 10 jours, quand son entretien sera terminé. Et le deuxième avion, je pense que c'est le 9 Québec Charlie Oscar Juliet. Et lui, c'est un avion qui est au sol parce qu'il est en attente de faire son grand entretien, donc lui ne vole pas. Et le 767, il est au sol pour des raisons techniques de remise en vol, puisqu'il a été arrêté pendant une longue durée. Et le quatrième, le HS-125, ne fait plus partie de la flotte de nos avions, donc je pense que c'est une petite anomalie, mais qui va être réglée administrativement.
Et selon la compagnie africaine d'aviation, l'autorité de l'aviation civile devrait mettre à jour sa liste.
Oui, tout à fait. C'est la réaction de la compagnie aérienne CAA par rapport à la publication de cette liste. Nous avons finalement pu avoir sa réaction. Et la compagnie africaine d'aviation confirme que ces 3 avions n'ont aucun problème technique. On écoute Jeff Kabimba, directeur commercial adjoint de CAA.
Notre Fokker 50, le Charlie Charlie India, était en inspection, en entretien, et qui est fini. Là, en ce moment, il va, peut-être que demain, il va reprendre ses vols. L'Airbus 320 Charlie Charlie Alpha, il est au sol parce que nous n'avons pas encore aménagé un horaire convenable pour cet avion. Et il est prévu que cet avion fasse les vols sur l'Afrique du Sud. Le Juliette Bravo, le Fokker 50, est informé que hier, par exemple, il a fait le vol Kinshasa-Mbandaka, Boeing d'Adolite Kinshasa. Vous pouvez vérifier même à la RIA, pour vous donner l'information que cet avion a bel et bien fait son vol. Aujourd'hui, il est au sol parce qu'il n'a pas un horaire pour vous. À mon avis, on devrait faire une mise à jour de cette liste. À mon avis, elle n'était pas vraiment réelle.
Et voilà, nous revenons dans ce studio et nous nous tournons vers le commandant Ilunga. Il est directeur des opérations, nous l'avons dit, aux lignes aériennes congolaises. Et régulièrement, il intervient dans nos émissions pour commenter l'actualité qui a trait au transport aérien. Commandant Ilunga, vous avez suivi d'emblée. Quelle est votre réaction par rapport à la publication de cette liste?
Je suis vraiment navré d'entendre. Bon, s'il y a des avions qui ont été coulés au sol, peut-être bon, pour des raisons techniques ou autres, ça je comprendrai. Mais quand j'entends les réactions de mes collègues des choses Flat Congo ou bien de CA, eh bien, je crois que je dois me tourner de la même façon aussi que pour l'AC, hein, pour qui d'ailleurs je viens d'apprendre que notre avion est parmi les avions qui sont au sol, alors que jusqu'à hier, moi, officiellement parlant, ma direction ne m'a pas dit, voilà, notre avion est au sol. J'étais avec mon collègue de la direction technique. Elle ne m'a pas signifié que notre avion était coulé au sol. Mais je dois dire, de toute façon, notre avion, effectivement, il est en inspection, comme tous les autres le disent. Et cette inspection est pratiquement terminée. Et c'est assez que je sache, la direction technique attendait maintenant les experts de la AC pour venir faire la chose, visiter cet avion-là et passer à la conformité pour lui donner son certificat de navigation qu'on appelle le CDN. Hein, c'est tout ce que je sais. Mais quand ils disent, bon, le met au sol, mais il faudrait qu'on explique pourquoi on est au sol. Parce qu'un entretien ou bien une vérification de l'avion, avion, quand même, ça demande certaines procédures. Et pendant qu'on fait ces procédures, bon, il y a des inspecteurs dans chaque compagnie aérienne et qui travaillent en étroite collaboration avec la direction de l'aviation civile. Quand il y a vraiment un problème, je crois que ça ne doit pas faire l'occasion de passer par une publicité vraiment nationale, internationale, pour dire que au Congo, pour telle compagnie.
Mais commandant, vous avouez avec nous que votre Boeing n'a jamais volé, ne vole pas. Donc il a raison d'être cloué au sol, il a des problèmes techniques.
Non, mais ce n'est pas l'aviation civile qui a cloué cet avion au sol, c'est nous. Parce que notre avion volé, et qui à un moment donné, admettons, si les pièces de rechange ne sont pas encore là, attends, il faudrait bien les chercher. Hein, il faudrait se mettre en règle avant vraiment, bien sûr, d'aller demander un certificat de navigabilité. D'ailleurs, le certificat de navigabilité était encore là. Hein, c'est parce qu'il vient à peine des choses expirées. Il faut les renouveler.
Oui, mais commandant Ilunga, maintenant officiellement, tout le monde sait que l'avion de l'AC, l'unique avion qui est opérationnel, est cloué au sol pour de bon, peut-être.
Mais non, pas pour de bon. C'est nous qui l'avons mis au sol depuis déjà un temps.
Oui, mais ce n'était pas officiel. Maintenant, c'est officiel parce que la liste a été publiée au niveau de la gestion civile.
Oui, on en profite bien sûr pour en faire une affaire nationale ou internationale. Mais cet avion est au hangar pour son inspection normale.
Oui, commandant, mais aussi d'une façon beaucoup plus générale, nous savons que le secteur de l'aviation congolaise pose terriblement de problèmes.
Oui.
Et n'est-ce pas pour l'AC une mesure courageuse de pouvoir identifier des avions qui, dans telle compagnie, ne doivent plus voler pour des problèmes, à cause de problèmes techniques? N'est-ce pas une mesure tout de même assez courageuse?
Si, la mesure elle est courageuse à partir du moment où on veut absolument assainir le secteur de l'aviation civile. Hein. Mais l'AC, toujours, lui, obéit à cette exigence-là. Nous n'avons jamais mis, en tout cas, un avion qui est en panne, en l'air. Chaque fois que nous avons des problèmes, nous stoppons l'avion et nous le mettons en chose au sol. D'ailleurs, la direction des opérations, par exemple, hein, n'est jamais d'accord avec la relation de la direction technique. Si jamais il y a un problème quelconque, moi, je m'insurge directement. Hein, je viens derrière la direction technique, je ne peux pas prendre l'avion tant que vous n'avez pas terminé telle réparation.
Mm-hmm.
Ça, c'est tout à fait normal.
Hein. Parce que tous les opérateurs aériens semblent écarquiller les yeux et dire qu'on est surpris. Mais tout le monde sait que les avions congolais ne sont pas viables sur le sol de l'Union européenne. Ils sont interdits de voler. Mais apparemment, tous les opérateurs semblent étonnés. Pas mon avion. C'est quand même curieux.
Non, si les autres, bien sûr, s'étonnent, ça, c'est vraiment le problème. Mais pour nous, l'AC, hein, depuis que nous existons, depuis Air Congo, depuis Air Zaïre, quand un de nos avions a un problème, automatiquement, il est au hangar. Vous pouvez venir d'ailleurs au hangar. Vous trouverez nos techniciens en train de travailler là-dessus.
Commandant Ilunga, maintenant que c'est officiel, hein,
oui.
Parce qu'il y a votre compagnie, l'AC, qui se retrouve sur cette liste, où il y a d'autres compagnies aériennes également, quelle démarche comptez-vous entreprendre au niveau de l'aviation civile?
Mais la démarche est déjà entamée. L'aviation civile connaît notre problème. On attend que leur technicien pour venir vérifier et puis nous donner le CDN.
Juste une précision, est-ce que je ne peux parler peut-être de la relance des lignes aériennes congolaises?
Absolument, nous sommes occupés absolument de cette question depuis déjà de presque 6 mois.
Et est-ce que vous sentez que le gouvernement s'engage réellement? Parce que l'autorité de l'aviation civile, c'est vrai, c'est le gouvernement qui publie cette liste, mais de l'autre côté, on ne sent pas la volonté politique de réhabiliter les secteurs aériens. Est-ce que vous sentez l'implication réellement du gouvernement dans la réhabilitation du secteur aérien à travers justement les lignes aériennes congolaises?
Ça, c'est une bonne question à laquelle, bien sûr, je peux vous répondre. Vous connaissez bien la situation de l'AC. C'était drôle, c'était une compagnie de l'État. Hein? Et pour faire de l'aviation, de toute façon, il faut de l'argent. Et l'AC, en principe, quand il est dans des problèmes sur d'argent, il doit absolument, elle pouvait recourir jusque-là, donc, à l'État congolais, hein, qui, malheureusement, n'a jamais montré un petit effort pour nous aider, surtout sur le plan financier, afin que nous puissions intervenir sur l'exploitation. Ça, je ne peux pas faire trop de commentaires là-dessus, mais je vous dis que si les autres compagnies aériennes, eux, hein, bien sûr, qui sont privés et ils ont de l'argent et ils peuvent intervenir à tout moment. Tandis que chez nous, bon, vous savez, il y a quand même certaines règles auxquelles il faut obéir. Hein, il faut quand même introduire une petite requête auprès du gouvernement pour avoir ceci et cela. Mais si vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de vous débrouiller même par vos propres moyens, avec les peu que nous avons. Or, les peu que nous avons, en principe, je ne pense pas que ça suffit pour que...
Donc, vous ne sentez pas la volonté politique?
La volonté politique du gouvernement, je ne suis pas vraiment dans le plus haut sommet. Hein. Bon, je crois que ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire avec la compagnie nationale.
Ça tarde encore.
Mais ça tarde, parce qu'en principe, comme je vous dis, hein, on ne fait pas l'aviation sans argent.
Deuxième dossier dans ce panorama économique, Mgr Nicolas Djomo Lola, président de la CENCO, Conférence épiscopale du Congo, a été récemment reçu devant la sous-commission du Congrès américain chargée des services financiers, Nicole.
Il s'est présenté comme témoin du côté des démocrates pour soutenir la loi 11-203 qui interdit la commercialisation des minerais finançant les groupes armés congolais. Cette loi serait combattue par les républicains avec le lobbying des entreprises américaines qui souhaiteraient son annulation. Pour en parler, Henri Moïa, secrétaire de la commission épiscopale pour les ressources naturelles, répondit aux questions d'Innocent Lenga.
Je pense que l'écho qu'on a reçu à travers le monde maintenant montre que le message a quand même été écouté. Et c'est ce qui fait que la décision a été un peu retardée, mais la lutte doit continuer parce que les républicains ont aligné 5 témoins, tandis que les démocrates n'en avaient que 2. Et parmi les 2, il y avait Mgr Djomo. Et il a semblé que ces arguments ont pu un peu convaincre les gens pour que, à ce moment-là, les républicains n'aient pas la possibilité de décider directement d'avoir la liberté de pouvoir demander l'annulation de la loi d'autrui. Je dois dire qu'il y a des initiatives qui ont été prises par le gouvernement congolais dans ce sens-là, dans le domaine de la transparence, dans le domaine de la traçabilité et aussi dans le domaine de la CIRGEL. Vous savez que la CIRGEL a 11 pays. On a signé récemment ici les 6 instruments de la CIRGEL pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et donc, il ne faut pas dire que le gouvernement a croisé les bras et qu'il n'écoute pas l'Église. Vous savez aussi qu'à un certain moment, le président de la République a décidé, c'était juste après la loi de 2030, qu'on ne puisse plus exploiter les minerais. Même si vous avez eu le tollé qui s'est levé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour combattre cette mesure-là.
Parce qu'il s'agit d'interdire la commercialisation des minerais qui financent les groupes armés congolais selon la loi américaine 111-203. Pensez-vous que les entreprises américaines vont se comporter catholiquement en déclarant l'origine de leurs minerais achetés?
Vous devez savoir que quand il y a une loi, il y a toujours des gens qui enfreignent à la loi. Et c'est là le travail de la justice. Mais la loi Dodd-Frank n'a pas encore toutes ses mesures d'application. C'est maintenant qu'il faut travailler à ces mesures d'application. Parce que s'il n'y a pas de mesures d'application, la loi risque de rester morte. Mais de l'autre côté, on peut encourager les entreprises américaines à venir investir au Congo et être plus proches des pays où sont exploités les minerais. Ça faciliterait la traçabilité des minerais et il pourrait aussi créer de l'emploi parce qu'ils disent qu'il y aurait un problème d'emploi si la loi continuait à être...
Voilà, nous revenons dans ce studio où, à part le commandant Ilunga, il y a aussi Franck Fomba, un expert du secteur des mines et des ressources naturelles qui revient justement aussi des États-Unis où il a eu à intervenir devant les autorités américaines sur la question des minerais. Est-ce que vous avez de prime abord un commentaire?
Le premier commentaire que je dirais ou que je ferais, c'est que nous devons considérer la loi Dodd-Frank dans sa globalité d'abord. Il est impérieux de souligner que c'est une loi qui concerne d'abord l'économie et les entreprises américaines. Parce que la loi, elle s'appelle Dodd-Frank, All Street Reform and Consumer Protection Act. Donc c'est une loi qui concerne d'abord
les utilisateurs américains.
Et quand vous prenez cette loi-là, il n'y a qu'une section sur autant de milliers de sections. Il y a la section 1502 qui concerne les minéraux de la RDC et des pays environnants. Okay. Ce qui fait qu'il n'y a pas que la RDC. Pourquoi est-ce que le législateur américain a inséré la section 1502? Il y a un congressman de Washington qui s'appelle Jim McDermott. C'est un médecin et gynécologue. Il a été en visite avec Mme Clinton, un peu avant Mme Clinton, puis avec Mme Clinton. Il connaît très bien la raison et la seule raison des grands lacs. Il s'est rendu compte qu'il y avait autant de femmes violées, autant de petites filles violées. Lui, en tant que gynécologue, il voit ce que ça représente. C'est ainsi qu'au niveau du Congrès, il a pesé pour que cette section-là ait du poids. Mais quand vous lisez bien la section 1502, c'est une section qui vient en appui à toutes les mesures qui ont été prises et qui devraient être prises par le gouvernement congolais. Il y a le code minier, parce qu'on demande au département d'État américain de monter une stratégie, de dire au Congrès la stratégie qui appuie les efforts du gouvernement congolais, du ministère des Mines congolais et de toutes les agences impliquées dans l'exploitation des minéraux et des ressources naturelles. Comment on doit combattre ou comment on doit lutter contre les minéraux de sang. C'est ça le contexte global. Personnellement, je suis content que Mgr Diomo soit passé par le Congrès. Le 11, vendredi, le 11, j'ai appris qu'il était là-bas pendant une session au Conseil mondial de l'or à New York. Contrairement aussi à ce que beaucoup de gens pensent, les entreprises américaines concernées par les minéraux de l'Est de la RDC, au moins les entreprises que l'on a vues, qu'on a vues en Pennsylvanie, vers Philadelphie, celles qu'on a vues à Silicon Valley en Californie, celles qu'on a vues à Washington, celles qu'on a vues à New York, toutes les entreprises, que ce soit l'électronique, il y a Motorola, il y a HP, il y a les autres, toutes les entreprises concernées veulent effectivement qu'on mette fin aux minéraux de sang. Parce que l'opinion américaine des universités, des ONG, les politiques sont très sensibilisées et sensibilisent davantage. Il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai dit au Congrès américain, j'ai dit au département d'État, j'ai dit à l'Institut pour la paix, qui est l'Institut du département d'État. J'ai dit à Global Witness, j'ai dit à la Banque mondiale, j'ai dit à USAID, que moi, si on doit mieux appliquer la loi Dodd-Frank, la section 1502, on devrait tenir compte des entreprises qui fabriquent les armes. Parce qu'on ne peut pas aller déminérer à la violation des droits de l'homme. L'argent ne viole pas les droits de l'homme. Il faut qu'on achète les armes. Je leur ai dit que le Congo est officiellement sous embargo. Mais les armes qui sont dans la sous-région, qui les vend? Parce que vous voyez qu'ils sont beaucoup plus les entreprises de Haït qui sont concernées. Les
industries n'est pas inquiétée.
C'est là que se pose le grand problème.
Donc, ce que vous disiez, c'est que le problème doit être vu dans beaucoup plus de globalité.
C'est ça, madame. Le problème doit être vu globalement. Et nous devons comprendre que la loi de Franck, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas une loi qui concerne d'abord les Congolais. Nous, la loi de sang peut exister si nous n'appliquons pas le code minier, si nous n'appliquons pas le règlement minier, si on n'applique pas les lois qui protègent le recouvrement normal des recettes, si on n'applique pas les lois sur, on n'applique pas le code des investissements, le problème se poserait toujours. On sait que les Allemands se battent au niveau de l'Europe pour que l'Union européenne ait son acte qui lui donne facilement accès aux ressources naturelles stratégiques. Parce que là, c'est la bataille avec la Chine, autour des terres rares et les autres. L'Allemagne se bat. Parce que l'industrie allemande dépend des terres rares et des minéraux stratégiques.
Mais justement, en parlant des Allemands, il y a le Bayer qui a vu son site internet piraté par des pirates internet, justement parce qu'il utilise les minéraux de la RDC, mais eux ne sont pas inquiétés par la loi américaine. Est-ce que du côté de l'Europe, il y a aussi un lobbying à faire?
C'est là que je voulais citer. Vous dites que les Européens doivent s'impliquer dans les principes de l'OCDE. L'OCDE est très impliqué pour qu'il n'y ait pas les minéraux de sang à l'Est, auxquels on doit donner des solutions globales et sous-régionales. Le problème auquel tout le monde doit s'impliquer afin qu'on aille dans la durabilité.
Donc finalement, cette loi n'a pas vraiment un véritable impact sur les minerais de la RDC.
Vous la prenez singulière, vous la prenez isolement. C'est une loi de bonne volonté. Elle démontre la volonté du gouvernement américain, du peuple américain d'accompagner la RDC. Et c'est une loi interpellative. Elle interpelle les Congolais que nous sommes à être sérieux en appliquant nos lois, à être sérieux en exécutant nos lois, à être sérieux en travaillant normalement. Parce que quand vous lisez très bien la 1502, il se pose un problème de gestion transfrontalière. C'est-à-dire que les douanes, c'est là que les douanes interviennent. Et peut-être pour revenir à ce que vous disiez pour l'aviation avec les avions. Le ministre des Transports passe là-bas. Il fait une réunion, il demande qu'on fasse les enquêtes techniques et qu'on fasse les enquêtes techniques et qu'on publie la liste. Moi, j'ai été surpris. Je me suis mis le marketing de mauvais goût. Que dans 48 heures, on puisse avoir checké autant, au moins 29 avions et qu'on les cloue au sol. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que les gens de l'autorité de la gestion civile ne savent pas faire leur travail. Parce qu'ils savaient faire leur travail, ils n'auraient pas attendu que le gouvernement Matata demande qu'on cloue au sol, qu'on publie la liste des agents qui ne sont pas en forme. C'est que ce ménage dit aux gens qu'ils doivent update, ils doivent mettre leur liste à jour.
C'est le même raisonnement que vous transposez dans le secteur minier.
Je vais dans le secteur minier. Vous savez aujourd'hui, dans le secteur minier, c'est un secteur, comme le Premier ministre a dit, qui s'est mobilisé beaucoup d'argent. Mais nous devons voir la stratégie. Ici, nous avons la DGBA. Nous avons la DGI. Nous avons la DGRA. Déjà dans le domaine des mines, vous avez le crédit des impôts, la DGDI et la DGRA qui sont en train de se passer. Il y a trop de services. Quand il y a trop de services qui collectent, ça veut dire qu'il y a pléthore de personnel, on dépense de l'argent inutilement, et les taxes sont mal collectées. Et quand les taxes sont mal collectées, à un moment, surtout, il y a trop de taxes et trop de taxes sur les taxes.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. Dans Maniema se vit actuellement une flambée de prix du sel et de l'essence. Nous sommes à Kasongo.
Dans cette cité, le prix du sac de sel de 20 kg est passé de 13 à 18 000 francs congolais. Le litre de l'essence est passé de 25 000 à 30 000 francs congolais. Selon les commerçants, deux facteurs expliquent cette situation. La hausse du prix du sel en Tanzanie, lieu d'approvisionnement, qui a entraîné aussi une rupture de stock dans cette cité.
Panorama économique, matières premières.
Une dizaine de dépôts de vente au bois ont été scellés depuis lundi par la direction provinciale des recettes, nous sommes là à Bounia. Et selon le directeur provincial, les propriétaires de ces maisons ne détiennent pas de permis de coupe de bois. Les exploitants, quant à eux, crient à la tracasserie. Martial Biamongo de la radio communautaire.
12 dépôts de bois ne sont plus opérationnels depuis hier à Bounia. La direction des recettes de la province orientale les accuse de ne pas détenir les permis de coupe de bois. Selon le directeur provincial de la BRTO, cette fermeture intervient suite à un contrôle effectué hier. Pour Ekili Moustapha, cette opération de recouvrement forcé s'inscrit dans le cadre de maximisation des recettes du trésor public. Pour lui, il s'agit de mettre de l'ordre dans le secteur de l'artisanal des bois. Les exploitants artisanaux des bois de leur côté pris à la tracasserie. Selon leur président, la perception des taxes de coupe de bois était jusque-là au ressort des services de l'environnement. Les Kingonas ne pas comprendre l'intervention de la BRTO pour la perception de cette taxe. D'autant que cette opération de recouvrement forcé va durer des semaines et va s'étendre dans d'autres secteurs, souligne le directeur provincial de la direction des recettes de la province orientale. Bounia, Marcel Kibedemongo, pour Radio Capi.
Et voilà, l'émission lentement, mais sûrement vers sa fin, mais vous avez quand même sûrement un mot par rapport à toutes les informations que vous avez suivies, Monsieur Samba.
Les gens doivent comprendre que le Congo n'est pas un pays de l'endroit. Moi, je suis d'accord quand on ferme les dépôts des gens qui sont irréguliers. Parce que quand on est irrégulier, ça veut dire que ce que l'on fait ne profite pas à la communauté, ne profite pas à l'État. L'artisanat forestier, il m'inquiète autant que l'artisanat minier m'inquiète personnellement. Vous savez, dans les mines, quand il y a l'artisanat, on écrème les réserves, on écrème ce qui peut être produit, bien produit, bien que toutes les mines ne peuvent pas être exploitées industriellement, mais on peut le faire saigner industriellement. Autant dans le bois aussi. Vous savez, l'artisanat, quand on fait l'artisanat forestier, on ne sait pas sur base de quels critères ils sont en train de déforester, non, sans reboiser. Et puis, ils prennent, les bois qu'ils prennent, c'est de quelle qualité ils vont vendre à quel prix. Souvent, ils bradent. Et quand quelqu'un n'est pas en ordre, quand vous voulez faire du commerce, vous devez être en ordre.
Mais aussi, s'ils ne sont pas en ordre, c'est peut-être qu'ils ont beau payer les taxes, mais ils n'en voient pas les retombées.
Y a un ancien président américain qui a dit, demandez-vous sur ce que vous voulez faire pour votre pays, non pas ce que le pays doit faire pour vous. Je crois qu'un bon citoyen doit faire son devoir et laisser à l'autre faire son devoir. Quand je paye mes taxes, je dois attendre que les auditeurs de l'État auditent ceux qui encaissent les taxes pour savoir pourquoi les taxes ne sont pas arrivées. Là, ce n'est pas le problème du commerçant de dire « je ne paye plus les taxes parce que les taxes n'ont pas été utilisées ». Mais c'est plutôt le travail de l'auditeur, des inspecteurs des finances, la Cour des comptes, qui à ce moment-là, on les était parce qu'à ce moment-là, ils auront failli à leur mission. Je pense que chacun doit faire ce qu'il veut. Concernant le prix de sel au Maniema,
Le marché est libre. C'est une politique auquel la RDC...
Non, le libre marché ne veut pas dire le prix selon les caprices de chacun. Parce que, vous savez, je pense que nous avons une loi sur le commerce qui détermine la marge qui doit être mise sur chaque produit en tant que bénéfice. Vous comprenez? Vous n'allez pas acheter. Vous achetez un sac de... Je donne un exemple. Vous allez acheter un sac de sel à 2$ parce que le marché est libre, vous venez le vendre à 200$. C'est là que le ministère du commerce doit faire son travail. Le ministère du commerce, au lieu de passer à embêter les gens, les commerçants, parfois qui sont en règle, le ministère du commerce doit chercher à réguler les prix. On doit savoir les prix tels qu'ils sont fixés. On les fixe par rapport à quoi? On doit voir tous les éléments. À la douane, on a acheté à quel prix? Le transport a pris combien? La douane, on a payé combien? Si il loue le magasin, ça coûte combien? Il y a des paramètres qui doivent entrer dans la fixation d'un prix d'un produit sur le marché.
Mais tant que le climat n'est pas assaini, tant que les routes ne sont pas assez bonnes, tant qu'il y a trop de tracasseries militaires, policières, nous savons ce qui se passe dans ces contrées, le commerçant se retrouve après avoir fait autant de dépenses qu'il doit récupérer.
Je retourne à ce que j'avais dit, madame. Vous savez, nous devons faire l'effort pour être des bons citoyens au lieu de, avant de commencer à demander aux autres d'être des bons citoyens. Vous savez que si on ne paye pas aussi les policiers, normalement, les milices, c'est pas que les gens ne payent pas les impôts. Je paye les impôts. Mais là où mon impôt va, qu'on ne le détourne pas, dès qu'on l'a détourné, que le parquet, que le ministère public, que la justice mette le détourneur dans la prison. C'est trop simple. Je ne peux pas chercher à être juge et parti.
Je vous remercie, M. Pomba. Commandant Ilunga, est-ce que vous avez un dernier mot? L'émission, c'est fini.
Mais c'est que je voulais seulement dire à propos de l'aviation civile. Hein. Je ne pense pas que c'est une bonne publicité que la direction de l'aviation civile est en train de faire d'abord contre elle-même, hein, en prenant comme ça 29 avions et les couler au sol. Oui, c'est une mauvaise publicité. Cela montre que dans notre pays, vraiment, mais pendant combien de temps est-ce qu'on a expertisé ces avions-là, hein? Pour qu'on arrive à cela, ça veut dire que c'est comme si on constate qu'il y a des véhicules dans la ville qui sont dans la poubelle, puis tout d'un coup, on vient déclarer tous les véhicules ici absolument chose à la casse. Non. Entre la commission de la direction de l'aviation civile et les compagnies aériennes, la direction de l'aviation civile doit être un conseiller, non seulement de ces compagnies aériennes, et en même temps aussi du gouvernement. La direction de l'aviation civile devrait passer avec leurs experts dans nos compagnies aériennes pour régulièrement veiller et donner des conseils avant vraiment d'arriver. Parce qu'à ce moment-là, ils n'arrivaient pas tout simplement à déclarer que ces avions sont inopérationnels. Au contraire, hein, on entendrait que tiens, aux choses en RDC, bon, l'aviation tourne très bien parce qu'il y a un contrôle permanent, et dans ce contrôle permanent, ces avions volent parce qu'ils sont contrôlés régulièrement. Mais qu'on laisse comme ça pendant, admettons, 10 ans, même pendant 6 ans sans contrôler, et puis tout d'un coup on vient déclarer 29 avions, ça veut dire que ces 29 avions, eux, pendant combien de temps, ils n'ont pas été contrôlés. C'est que nous étions têtus pour ne pas vraiment, disons, obéir aux normes des choses de l'aviation civile. Non.
Et ce sera le dernier commentaire de ce panorama économique. Merci à nos invités, Franck Fomba et au commandant Ilunga.
Merci surtout à vous, fidèles auditeurs. Merci à Nicole Gassin qui nous a accompagnés.
Merci à vous, Agatha.
Merci à vous, fidèles auditeurs de Panorama Économique qui nous suivez de partout dans le monde et à travers le www.radioocapi.net. Merci de retrouver Écho d'économie chaque jour du lundi au vendredi à partir de 18h15 de Kinshasa sur la 103.5. Merci de lire et de commenter également les articles de la rubrique économique du site de Radio Okapi. Je rappelle que c'est le www.radioocapi.net. D'ici là, chers auditeurs, passez un bon week-end en compagnie des programmes de votre radio.